blanc, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes de toute les Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maribin. Je t'ai blousé chez mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage. La rage.
La rage. Chers auditeurs de La Rage Dedans, bonjour, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Geoffroy Renimel de ATD Carmonde. Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de maltraitance institutionnelle. ATD Carmonde a sorti il y a peu un rapport à ce sujet. Mais avant d'en venir à ce rapport, je voudrais qu'on parle de ATD Carmonde pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas son combat depuis 1957 contre l'extrême misère. Alors, le père Wresinski a fondé ATD Carmonde en 1957 et il n'a pas voulu que ce soit un mouvement religieux parce que ATD Carmonde c'est un mouvement international non gouvernemental sans affiliation religieuse ou politique et qui est présent dans 30 pays. C'est ça.
Tout à fait. Donc effectivement ça a démarré en 1957 avec Joseph Wresinski, mais aussi les habitants d'un bidonville à Noisy-le-Grand. Mm-hmm. Donc, ils ont créé ensemble ce mouvement. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que Joseph Wresinski, c'était quelqu'un qui était aussi issu du monde de la misère. Donc, il savait vraiment de quoi il parlait. Et c'est pour ça qu'il avait des intuitions fortes. Et il avait une connaissance très précise de ce que vivaient les gens. Et ça a été vraiment le point de départ d'un grand combat, d'un grand élan qui est devenu maintenant international et qui a pu aussi faire changer des choses au niveau de l'ONU, au niveau qui a permis de construire aussi des piliers du modèle social français, comme le revenu minimum d'insertion, qui est maintenant le RSA, ou le droit au logement opposable, la couverture maladie universelle. Voilà, on a été de ces combats-là, avec d'autres évidemment.
D'accord. Il y a aussi la journée du refus de la misère.
Oui, donc ça a été un des grands moments marquants. Donc c'était en 1987. Mm-hmm. Donc on avait rassemblé jusqu'à 100 000 personnes sur le parvis des droits de l'homme et des libertés au Trocadéro. Et c'était la première fois qu'on affirmait que la misère était une violation des droits de l'homme, ce qui était un basculement très fort.
Sémantique et juridique.
Tout à fait, ouais, tout à fait. D'affirmer ça, ben voilà, ça changeait beaucoup de choses et on en voit aussi encore des fruits dans le droit international, dans le droit européen, dans le droit français. Donc pour nous, ça a été un moment de mobilisation forte, un moment aussi où les personnes en situation de pauvreté, ont pu vraiment prendre la parole, exprimer ce qu'elles avaient à dire, ce qu'elles vivaient, et aussi leurs aspirations. Et depuis, voilà, on célèbre cette journée chaque année le 17 octobre. Et c'est vraiment un moment de mobilisation populaire. En France, là, cette année, on a eu 80 événements un peu partout en France. Alors des fois, des choses très modestes, mais très importantes. Et puis, bah, voilà, d'autres fois, par exemple, au Trocadéro, il y a des rassemblements un petit peu plus importants. Mais enfin voilà, peu importe où on vit cette journée, voilà, tant qu'on est toujours dans cet esprit de laisser les personnes, enfin permettre aux personnes de s'exprimer sur ce qu'elles vivent et sur leurs aspirations à un monde meilleur, c'est vraiment l'esprit de la journée.
Alors, le père Franciski, il a fondé ATD Carmonde avec les habitants du bidonville de Noisy-le-Grand. C'est-à-dire que ATD Carmonde ne fait pas sans les gens. Vous faites avec les gens.
C'est ça, c'est on insiste énormément sur la participation, que ce soit vraiment les premiers concernés qui puissent être dans les combats, et puis on essaye de faire qu'ils soient là de bout en bout, c'est-à-dire du début où on identifie une question qu'il faut travailler, jusqu'à en être aussi porte-parole. Par exemple, on essaye dans la mesure du possible, quand on a des rendez-vous avec des responsables politiques, bah aussi de venir avec les gens, parce que quand on a la réalité face à soi, voilà, il y a pas d'échappatoire, quoi. Quand on a une personne qui explique très clairement, voilà, moi j'ai pas de logement et voilà c'est quoi ma vie, bah en face ça crée aussi, ça peut créer en tout cas des électrochocs, et on a eu des rencontres des fois qui ont été vraiment intéressantes où voilà, ça, c'est des petites prises de conscience, mais qui peuvent aussi mener à des changements. Et on sent que dans les responsables politiques, il y a un vrai besoin aussi de rencontrer justement ces gens qui sont sur le terrain, qui vivent les choses.
D'accord. Alors, dans 30 pays, est-ce qu'on peut citer certains des pays dans lesquels ATD Carmonde opère ?
Oui. Les Philippines, le Guatemala, le Burkina Faso, le Sénégal, le Kenya, la Tanzanie, la Bolivie, le Pérou, les États-Unis, l'Angleterre.
Donc, c'est important de dire qu'il y a aussi les États-Unis.
Tout à fait.
Parce qu'on n'imagine pas qu'un pays aussi riche que les États-Unis ait besoin d'une antenne de ATD Carmonde.
Alors, ben justement, nous, c'est une des idées fausses contre lesquelles on a beaucoup bataillé pendant des années sur le fait que la pauvreté, c'est dans les pays du Sud. Nous, justement, Carmonde, c'est pour affirmer que la pauvreté, elle est partout. Ce Carmonde, il existe partout. Et enfin, en France, aux États-Unis, en Angleterre, enfin voilà, on bat en brèche vraiment cette idée que la pauvreté, c'est dans les pays pauvres. Non, la pauvreté, elle est partout, à des degrés différents. Mais voilà, il faut pas que ce soit un prétexte à l'inaction. Donc, si on reprend l'exemple des États-Unis, enfin voilà, il y a des situations qui sont vraiment dramatiques. Nous, on avait une action dans les Appalaches où, enfin voilà, il y avait des gens qui avaient des conditions de vie qui étaient c'était vraiment très 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 dur, et où on avait été aussi assez mobilisé au moment de Katrina, de l'ouragan Katrina, et effectivement beaucoup de gens qui étaient laissés sans rien
par le gouvernement fédéral.
Tout à fait. Donc on avait eu, on s'était beaucoup mobilisé à cette période-là. On peut aussi citer Haïti, où voilà, on y est depuis longtemps. Où on a un projet de sur la santé communautaire qui fonctionne bien, et malgré voilà toutes les le à quel point voilà la vie de Haïti est mouvementée, on tient, mais on tient justement parce qu'on est avec les gens, parce qu'on leur donne cette place là et voilà, on sent que la participation, c'est vraiment ça qui fait que les choses peuvent tenir dans la durée.
Alors, dans les personnalités qu'on identifie comme étant compagnons de longue date de ATD Carmonde, il y a la première présidente de ATD Carmonde en 1964, c'est Geneviève Antonioz de Gaulle.
Oui, alors...
La nièce du général.
La nièce du général qui donc a connu la déportation, les camps.
À Ravensbrück. Et elle dit ceci, elle dit qu'une amie commune l'a invitée à venir au bidonville, justement, de Noisy-le-Grand. Et elle dit qu'elle a vu dans le visage des gens du bidonville quelque chose de comparable qu'il y avait sur le visage de ses camarades à Ravensbrück.
Oui. Ouais, c'était pour elle, ça a été un grand moment de prise de conscience et c'est à ce moment-là où elle s'est vraiment liée à cette population, à ce peuple, le Quart-Monde, pour être dans ce combat et amener ce que elle, qui elle était aussi, effectivement, c'était pas n'importe qui, elle avait tout un réseau dans les cercles de pouvoir et donc elle a illustré ce que nous on appelle l'alliance, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu la grande précarité mais qui font alliance dans ce combat, c'est-à-dire aussi qui dans leur milieu œuvrent pour faire connaître ce qui se passe et faire changer les mentalités et faire avancer les lois. Et donc c'est vrai qu'elle a incarné ça pendant de nombreuses années et elle a porté la voix d'ATD Quart-Monde de manière très très importante jusqu'à une loi qui est pour nous une loi de référence, qui est la loi d'orientation de 1998 sur les exclusions, qui est pour nous un aboutissement très fort. Et on se dit que si on reprenait cette loi comme modèle pour lutter contre la pauvreté dans notre pays. Voilà, là, il y a des bases vraiment très solides pour avancer vers ça.
Geoffroy, présente les points forts de cette loi, justement, pour ceux de mes auditeurs qui la connaîtraient pas. Parce qu'elle a été vraiment l'aboutissement d'un combat depuis 57, jusqu'en...
Oui. Donc, alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'avant cette loi, il y a eu un rapport, le rapport Wresinski, au Conseil économique, social, pas environnemental à l'époque, mais voilà. Donc, c'était un rapport sur la grande précarité, donc fait par Joseph Wresinski, qui avait fait un énorme travail de participation, d'implication de personnes en situation de pauvreté, de familles. Et donc, c'est un rapport qui a vraiment fait date sur ces questions de grande pauvreté. Et donc, dans les suites de ça, ça a été, une des suites, en tout cas, ça a été de préparer cette loi de 1998. Enfin, elle aurait pu aboutir avant, mais en tout cas, c'est une suite assez logique de comment on traduit ce rapport, ces préconisations du Conseil économique social dans une loi très concrète. Donc, c'est une loi d'orientation, c'est-à-dire qu'elle accompagne, dans l'ensemble des politiques publiques devait prendre en compte cet objectif d'éradication de la pauvreté.
Donc, l'éradication de la pauvreté devait être le fil conducteur de l'action publique.
C'est ça. Et donc c'est pour ça que nous on trouvait que c'était vraiment ambitieux, parce que voilà, c'était un peu de se dire comment tout ce qu'on propose, tout ce qu'on fait, on le passe à la moulinette de justement la lutte contre la pauvreté. Et on se disait, en fait, la pauvreté, elle ne doit pas être restreinte à un ministère ou à une politique publique. Sinon, en fait, on ne s'en sort pas. Et donc, nous...
C'est tout le pays qui doit se mettre en branle.
C'est ça, il faut une mobilisation générale, il faut... Que chaque ministère prenne sa part, que les choses soient aussi interconnectées, parce que nous, notre grand travail, c'est de dire qu'il faut une approche globale sur ces questions-là, parce que si d'un côté, on fait certaines politiques familiales, mais après, à côté, on a d'autres politiques de l'emploi qui vont un peu à l'opposé...
Ou de logement.
C'est pas cohérent, en fait. Mm-hmm. Ou de logement, tout à fait. Ça, c'est un exemple actuel.
Ou l'école.
Voilà, donc nous, la démarche, c'était vraiment comment on articule le tout. Et cette loi-là, elle posait des bases pour ça.
Mmh. Bien. Et quel a été le résultat à l'heure actuelle?
Donc,
parce qu'on a un rapport qui est tombé cette semaine, disant qu'en 20 ans, il y a 1,4 million de personnes qui ont sombré dans la pauvreté dans notre pays. Et c'est un rapport, pas d'anarchistes échevelés comme nous. On va rire. C'est des économistes et des sociologues consensuels.
Oui, tout à fait. Et donc, clairement, pour nous, la loi de 98, ça a été un peu un apogée, justement, des ambitions sur les questions de grande pauvreté. Et après, il y a eu quelques autres lois qui ont été intéressantes, notamment le droit au logement opposable qui aussi posait quelque chose de fort. Mais c'est sûr que là, depuis une dizaine d'années, on est en décrochage. Enfin, les chiffres de l'INSEE, l'INSEE pour le coup, c'est la référence en termes de statistiques publiques, nous disent
qu'ils sont affolants.
Voilà, qu'on est à des niveaux de 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, voire même, il y avait certaines populations qui n'étaient pas incluses dans les statistiques. Donc ça va même jusqu'à 11 millions.
Voilà, parce que si on oublie, si on peut pas, il y a des populations qu'on ne peut pas recenser parce qu'elles ne sont pas recensables, comme les sans-papiers, les demandeurs d'asile et tout le reste, qui sont en dehors des statistiques. Donc ça fait 11 millions, 11 à 12 millions de personnes qui sont en grande précarité.
C'est ça. Et donc on, si on regarde des tendances longues, en fait, on est toujours entre 12-14% de taux de pauvreté et depuis 20 ans, en fait. Et donc on se rend compte que ça n'avance pas, voire ça empire, parce que ça augmente très légèrement, en fait. Ça, la tendance, il n'y a pas un grand bond. Mais après, je pense qu'il faut prendre ça aussi avec des limites, parce qu'il y a aussi, après, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'intensité aussi de ce qui se vit sur le terrain. Et là, des rapports des Restos du Cœur, le Secours catholique, ces rapports-là aussi qui donnent des éléments qualitatifs aussi de l'aggravation sur le terrain, en fait. Les Restos du Cœur l'année dernière, ils disent nous on peut plus, en fait,
on va trier et on va refuser du monde.
C'est ça. Et donc on voit bien qu'on touche des limites. Donc c'est vrai que nous on entend des responsables politiques qui nous disent c'est formidable ce que font les associations, nous on est d'accord, mais on aimerait bien que les pouvoirs publics aussi s'engagent, en fait, et que ce soit pas juste un chèque aux associations. Nous, on ne cherche pas à avoir une délégation de service public, on cherche à ce que les droits soient respectés, et ça implique aussi des services publics de qualité. Parce que si, d'un côté, on dégrade les services publics, et de l'autre, on arrive dans des situations d'urgence gérées par les associations, c'est intenable, en fait.
Tout à fait. Alors, ATD Quart Monde, 65 ans d'existence contre l'extrême pauvreté. Vous dites sur le site internet d'ATD Quart Monde, être pauvre, c'est faire partie d'un système qui vous fait attendre indéfiniment dans un état de peur et d'incertitude. Qu'est-ce que c'est que il faut dire aux auditeurs qu'est-ce que c'est que l'extrême pauvreté ? Parce qu'il y a la pauvreté et il y a l'extrême pauvreté. Et ATD Quart Monde, c'est de quoi sont le quotidien des extrêmes, des gens qui sont en extrême pauvreté. Qu'est-ce que c'est l'extrême pauvreté ?
Qu'on
le matérialise.
Voilà, donc c'est quand on a un cumul d'insécurité dans différents domaines de la vie, c'est-à-dire pas d'emploi, c'est-à-dire des difficultés sur le logement, c'est-à-dire des moyens d'existence ou de subsistance, enfin pas de revenus suffisants, des difficultés à se nourrir. C'est des problèmes de santé, c'est ce cumul-là, et c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Même si on arrive à agir sur un levier, il y a un autre levier qui vient et puis qui remet un peu tout par terre. Donc c'est ça l'extrême pauvreté, c'est quand on n'arrive pas à se sortir de ce système-là. Et donc, nous, on avait fait une étude qui est sortie en 2019 sur les dimensions cachées de la pauvreté. Donc ça, c'était un travail qu'on avait fait justement pour essayer de casser l'idée que la pauvreté, c'est qu'une histoire d'argent. Parce qu'on se rend bien compte que ça va plus loin que ça.
C'est culturel, c'est monétaire.
Voilà.
C'est plusieurs aspects, la pauvreté. Ça touche plusieurs aspects de la vie.
Tout à fait.
Et c'est la santé, c'est l'éducation, c'est plein de choses.
Tout à fait. Et donc, en fait, on voulait notamment réussir à interpeller la Banque mondiale dont les indicateurs sont surtout très monétaires et bon voilà, ça donne une partie de d'analyse qui est intéressante, mais pour nous il faut compléter ça avec aussi d'autres indicateurs plus qualitatifs, plus fins. Et donc on avait fait cette recherche, donc une recherche internationale avec l'université d'Oxford sur les dimensions cachées de la pauvreté. Et donc dans ces dimensions de la pauvreté, il y avait la maltraitance sociale, donc c'est un peu tous les idées fausses, les préjugés, enfin voilà, tout ce qui fait que les gens en fait se sentent accusés en permanence et se referment sur eux-mêmes. Mmh. Ensuite, il y avait toutes ces situations de peur et de souffrance. En fait, c'est dans notre rapport sur la maltraitance institutionnelle, qui a été commenté par l'historienne Axel Brodier-Dolino, elle listait tous les mots, tous les synonymes qu'on avait sur le mot peur, en fait. Mmh. Et c'était une liste, je sais plus, il y avait une vingtaine de mots, quoi, une trentaine de mots. Et en fait, elle disait, ben voilà, dans ce travail, ce qu'on ressent, c'est vraiment l'état de peur permanent qui existe. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, cette étude sur la dimension de la pauvreté, ça a été un moment assez pivot aussi pour nous, pour essayer d'avoir une compréhension plus fine de ce que vivent les gens. Et c'est une étude qu'on a faite aussi qui était participative, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en précarité qui ont travaillé au même titre que des chercheurs ou des praticiens, des personnes qui travaillent dans des associations ou dans des structures. Voilà. Donc cette recherche, elle souligne vraiment à quel point les gens sont dans un combat permanent et les gens sont dans une situation de peur et de souffrance en permanence. Donc déjà, si on n'a pas ça en tête quand on réfléchit des politiques publiques, qu'est-ce que les personnes ont, qu'est-ce qu'elles ressentent, mm-hmm. Et il faut, voilà, c'est très important de prendre tout ça en compte. Peut-être là-dessus.
Ben. En fait, ouais. Je voulais que tu définisses bien deux mots qui ouais. reviennent. C'est la peur ouais. perpétuelle. C'est la peur perpétuelle.
Ouais.
On a peur de tout ce qui peut arriver et qui peut couler davantage la situation dans laquelle on surnage à peine.
Tout à fait.
C'est ça.
C'est ça. Donc la peur, c'est la peur de pas avoir suffisamment à manger pour ses enfants.
Voilà.
La peur de pas pouvoir, là on arrive sur la période de fin d'année, de pas pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants.
Tout à fait.
La peur de
d'être expulsé de son logement.
D'être expulsé. Alors l'expulsion, c'est une expérience très traumatisante. Et nous, on connaît des familles qui ont été expulsées à répétition et on voit que ça laisse des traces très longtemps. En fait. La peur aussi la peur du placement des enfants. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ce que vivent les familles. Et parce que les enfants, ça représente vraiment l'espoir d'un
monde meilleur.
D'un monde meilleur. Et les familles, en tout cas, avec qui nous, on est engagés, elles placent énormément d'espoir dans leurs enfants.
Et se sacrifient pour leurs enfants.
Elles font des efforts incroyables. Enfin, on a vu des familles, des fois, qui font des kilomètres à pied pour, je sais pas, être là pour à la sortie de l'école. Enfin,
Parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer le transport en commun.
Par exemple.
Ouais. C'est tout bête, mais c'est ça.
Ouais.
Voilà. Bien. Geoffroy, on va faire une pause musicale et on va revenir sur le rapport sur la maltraitance institutionnelle.
Nos vues sur une grille d'accord. d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Impressionnable par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Chers auditeurs de La Rage d'Or, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Geoffroy Renimel de ATD Quart-Monde sur la maltraitance institutionnelle. Et là, nous allons l'aborder. Donc, si on lit sur votre site internet atdquartmonde.fr, une définition, c'est un fléau qui touche l'ensemble de la population et qui impacte sur les plus pauvres,
Plus durement les plus pauvres.
Qui impacte plus durement les plus pauvres et qui a des conséquences dramatiques. C'est tout le système qui bug au niveau école, emploi, logement, pour ne citer que les principaux postes. Alors.
Alors, c'est vrai qu'en fait, pour l'expliquer aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a travaillé dans nos universités populaires Carmont, qui sont des lieux un peu de construction de la pensée sur différents sujets, et on avait mis ce sujet de la maltraitance institutionnelle. En fait, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient vraiment beaucoup de choses à dire. En fait, les exemples fusaient de tous les côtés, et donc on s'est dit, il y a un truc à creuser. Mais après, c'était des situations très diverses. Donc, on s'est dit, on a besoin de construire ce sujet en tant que, enfin, de construire politiquement ce sujet, en fait. Et donc, on a cherché déjà ce qui existait dans la loi. Et donc, dans la loi, il y a une commission, une commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bien-traitance qui a existé et qui a posé une définition de la maltraitance et plus spécifiquement de la maltraitance institutionnelle. Alors, ils disent, lorsque des situations de maltraitance résultent au moins en partie de pratiques managériales de l'organisation et du mode de gestion d'une institution ou d'un organisme gestionnaire, voire de restrictions ou dysfonctionnements au niveau des autorités de tutelle sur un territoire, on parle de maltraitance institutionnelle. Donc, pour le dire très simplement, c'est de regarder tout ce qui ne va pas au niveau des institutions. On sait qu'il y a des dysfonctionnements, et donc ce qu'on a voulu... donc nous, on en voit les conséquences, mais on a voulu essayer de comprendre, un, les mécanismes, et d'identifier aussi des pistes de solutions.
Donc, on va revenir sur les mécanismes de cette maltraitance. Geoffroy, si tu veux bien. Quels sont les mécanismes à l'œuvre ?
Est-ce qu'avant, on peut peut-être donner quelques exemples pour que les auditeurs, peut-être auditrices, se rendent compte ? Donc, on a dans notre rapport quelques pages où on essaie de décrire un peu la diversité des situations. Donc on a plein de petits exemples où on dit, voilà, la maltraitance institutionnelle, c'est quand t'as oublié un papier et qu'on te supprime le versement du RSA en une semaine et que ça prend 3 mois pour retrouver le RSA, par exemple. Et donc la maltraitance, c'est quand on se soucie pas que tu te retrouves sans ressources. Et que, enfin voilà, tu te retrouves dans des situations dramatiques qui auraient pu être totalement évitées avec un coup de fil ou de prendre un petit peu plus le temps, qu'il n'y ait pas cette sanction des fois qui tombe très très rapidement. La maltraitance institutionnelle, c'est aussi quand les moyens humains manquent dans les services publics, Nous, on a beaucoup de situations, par exemple, à l'accueil de certains services publics ou...
La CAF, par exemple.
La CAF, ça revient souvent de... Ah voilà, ouais. Et alors qu'on sait que l'accueil, c'est vraiment le moment clé, en fait. Mm-hmm. Si ça se passe mal à ce moment-là...
Tout déraille.
Les gens, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Donc, c'est ça qui cause aussi du non-recours. Que les gens, en fait, ils se retrouvent...
À ne pas percevoir des droits qui leur sont garantis par la loi, en plus.
Tout à fait.
Et on se demande si l'État ne fait pas exprès pour économiser de l'argent sur le dos des plus pauvres. C'est mon côté paranoïaque.
en tout cas, c'est clair qu'il faut, dans le contexte, on peut effectivement se poser la question. Et nous, justement, on questionne ça, des fois, de ce qui est mis en place. Il y avait, par exemple, sur le chèque énergie, récemment. Oui. Il fallait en faire une demande au niveau informatique. Et nous, un des grands sujets ce qu'ils voulaient mettre en place, c'était ça. C'était, voilà, faut le faire une demande sur Internet. Alors que là, c'est assez automatique. Et donc, ça, clairement, il y a plein de gens qui vont pas y arriver, en fait.
C'est donc, clair. 10% d'entre nous ne sont mal à l'aise avec l'Internet ou n'ont pas accès à Internet tout court.
Ah ouais, et donc ça, la dématérialisation, tout le numérique, c'est alors ça peut être bien pour plein de gens, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de gens pour qui ça complique les choses, en fait. Mm-hmm. Nous, on a eu pas mal de situations de gens qui disaient, voilà, je suis arrivé au guichet, on m'a dit, faites votre démarche en ligne, j'ai pas d'ordinateur, Attendez, prenez un rendez-vous pour être accompagné par quelqu'un. Donc en fait, faut prendre un rendez-vous pour prendre un rendez-vous. Ça, c'est un exemple, par exemple. C'est assez classique dans les pour les rendez-vous France, en préfecture, par exemple.
En préfecture et France Travail.
Ouais. France Travail, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Donc on sent que il y a quelque chose de complètement inefficace.
Kafka, voilà. C'est Kafka. Hein.
Voilà. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que on parlait tout à l'heure du temps. Voilà, les gens qui sont pris dans des contraintes de temps, dans une attente indéfinie. La dématérialisation, elle a aussi amené et renforcé ça. En fait, de savoir, on ne sait pas trop quand il y aura un mail qui va tomber ou un courrier ou quand on appelle, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on aura une réponse ou pas. Donc ça, ça contribue au climat d'incertitude, d'angoisse.
Et de peur.
Et de peur, oui.
Et de peur. Donc, on a commencé à dématérialiser pour les étrangers l'accueil en préfecture. Les associations de soutien aux étrangers avaient alerté sur le fait que ça allait être étendu à l'ensemble de la population. On en est là, et c'est une catastrophe. Et elles n'ont pas été écoutées. En fait, elles ont servi de test, les populations étrangères et précaires. Et c'est toute la population qui se retrouve embarquée dans ce problème.
Oui, et donc nous, on a des grandes inquiétudes sur cette numérisation aussi qui n'est pas expliquée, en fait. Parce que la numérisation, elle va faire que à un moment, c'est des machines qui prennent des décisions.
Oui.
Mais donc, ce qui est très important pour que les gens adhèrent à un processus, c'est qu'ils comprennent pourquoi le choix a été fait. Par exemple, sur les gens qui sont RSA, sur le volet insertion, donc l'accompagnement vers l'emploi. Le premier tri pour savoir vers quel organisme les gens sont dirigés, c'est par une intelligence artificielle, enfin par un algorithme en fait. Mmh. Et donc il faut pas qu'on dépossède les gens de la compréhension de pourquoi ils vont vers tel organisme ou pas quoi. C'est parce que c'est aussi ça qui risque de faire que, si on est dans l'incompréhension, si on est aussi peut-être en désaccord avec le choix qui a été fait, comment on conteste ? Auprès de qui ?
Alors, ouais. Tout ce qui est algorithme, il y a eu des associations qui ont contesté les algorithmes de la CAF, parce que la CAF faisait des contrôles, et on a constaté qu'il y avait de la maltraitance dans ces contrôles, parce qu'elle ciblait les plus pauvres.
Tout à fait. Donc,
et ça a été en justice. Et elles ont gagné.
Alors, il me semble que c'est encore en cours. Le recours a été déposé, mais je ne pense pas que c'est encore...
Disons qu'elles ont gagné la visibilité de cette action qui a amené des gens à abonder dans le sens de ces associations, dont notamment la candidature de Dunet, qui est une bonne association.
Tout à fait, et on les salue bien. Donc, là-dessus, nous, on avait beaucoup travaillé sur le critère de discrimination pour cause de particulière vulnérabilité, c'est-à-dire pour cause de pauvreté.
Voilà.
Et donc on voit dans cette situation des algorithmes de la CAF, potentiellement les critères. Il y avait 33 critères dans ce qu'a révélé le Monde qui avait eu accès
aux algorithmes.
Aux algorithmes. Et donc clairement, ça cible les plus pauvres. Donc pour nous, il y a une discrimination. Donc il y a ce recours. Alors nous, on n'est pas partie prenante de ce recours-là, mais enfin, on regarde ça effectivement avec intérêt. Mmh. Et on se dit que c'est intéressant parce que ça peut poser aussi un précédent pour pour justement de futurs algorithmes aussi dans d'autres organisations. Donc c'est...
On pense à France Travail.
Voilà, on sent qu'il y a besoin aussi d'une certaine transparence sur ces algorithmes. Alors effectivement, quand on dit ça à la CNAF, elle dit oui, mais en fait, si on a une transparence sur les critères, c'est un peu la recette pour frauder en fait. Mais enfin voilà, nous on se dit qu'il y a quand même
c'est un débat démocratique.
Voilà, entre pas d'infos du tout et une transparence totale, on se dit qu'il y a quand même de la marge et on peut quand même
et on peut en débattre, c'est démocratique.
On peut en débattre, voilà. Et on se dit que il faut impliquer aussi les personnes concernées dans ces choix-là de sur les critères d'algorithme. Nous, on n'est pas forcément contre les algorithmes s'ils permettent d'améliorer l'accès aux droits.
Oui, c'est... sur le papier, ça permet. Dans la réalité, je demande à voir. C'est mon côté complotiste.
Non, mais il y a énormément de il y a énormément de raisons de s'inquiéter. Ça, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr.
Et quand on voit ce qui est fait ou ce qui se dessine, il y a des raisons objectives de s'inquiéter. Après, c'est comment on arrive à poser un encadrement démocratique de tout ça, qui est, je pense, assez compliqué.
Alors, revenons à la maltraitance institutionnelle. Donc, on a parlé de la dématérialisation. Il faudrait garantir des moyens convenables d'existence inconditionnelle à tout le monde. Donc, ça fait partie des solutions. Est-ce qu'on a parlé des mécanismes de méfiance ? Oui. On a parlé du fonctionnement des institutions ? Oui. Est-ce qu'on a parlé des choix de la société ? Parce qu'il y a des choix de société aussi. Est-ce qu'on a bien expliqué aux gens qu'à force d'informatiser tout, l'homme ne serait plus prédominant dans la décision ? Donc, ce qu'on voyait dans les romans d'anticipation de l'époque de Ray Bradbury, par exemple, ou Orwell 1984, est en train d'arriver.
Oui, et puis enfin, c'est vrai que nous, une de nos demandes, c'est vraiment de remettre de l'humain dans les services publics. Parce qu'on sent qu'il y a... Enfin, nous, les familles avec lesquelles on est engagés, les situations sont très complexes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et voilà, on se dit que... jamais une machine n'aura une empathie ou une compréhension des différentes de la complexité, voilà, de la situation familiale. Donc pour nous, c'est important que les gens qui ont besoin d'avoir un interlocuteur humain en face et compréhensif et formé aussi, hein.
Parce qu'on
a aussi beaucoup de situations avec des interactions qui sont très dures entre justement du personnel de certaines institutions et les familles. Donc donc pour nous, c'est aussi essentiel d'investir dans la formation des professionnels.
Mais les professionnels demandent la formation. Ils demandent pourquoi les employés de France Travail se sont mis en grève. C'est parce qu'ils estimaient qu'on leur retirait des moyens et qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer leur mission d'accueil et de suivi des chômeurs de longue durée, notamment, notamment les seniors.
Alors tout à fait, c'est pour nous un peu une aberration effectivement d'enlever des moyens et des moyens humains. C'est vraiment ça aussi la clé. C'est que d'un côté on nous dit on fait un accompagnement rénové des allocataires du RSA, donc on sent qu'il y a une prise de conscience qu'il faut améliorer la qualité de l'accompagnement. Enfin, tout le volet insertion, mais de l'autre côté, on enlève des moyens humains. Donc pour nous, il y a vraiment quelque chose qui est pas cohérent. Et si le gouvernement veut être sérieux sur l'accompagnement des allocataires du RSA, c'est un investissement massif.
Alors, il y a aussi, on doit faciliter les recours juridiques et administratifs. Ça, c'est le côté revendicatif.
Oui, donc ça, pour un peu contextualiser aussi, c'est beaucoup lié aux situations de placement des enfants,
voilà,
dont je parlais un petit peu plus tôt. Pour bien situer, on parle pas des situations de placement où il y a un danger avéré pour les enfants. Ça, voilà, c'est clair et net, si le placement est justifié, voilà. C'est les placements qui demandent plus de réflexion et sont peut-être, de discussion. C'est les placements pour carence éducative. Nous, ce qu'on dit, c'est que
les parents pourraient être accompagnés pour les carences éducatives, plutôt que de placer les enfants.
Voilà, c'est ça. Donc,
parce que c'est culturel aussi, la précarité. Ça, c'est parce qu'on n'a pas été éduqué suffisamment par ses propres parents que parfois on reproduit des situations de précarité. Donc, à un moment donné, il faut que l'État ou les associations ou la société se mettent à la place de ces familles et donnent le coup de pouce qu'il faut dans les carences.
C'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des familles qui sont constamment face à des choix impossibles, qui sont obligées d'arbitrer selon des logiques qui sont les leurs. Donc, en fait, il y a des fois des choix qui échappent à notre compréhension, mais qui ont une certaine
logique
selon les personnes. Ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, je pense à une famille où il y avait donc les enfants sont placés et donc il y a une visite médiatisée qui est organisée, donc que les parents puissent retrouver les enfants durant un temps. Sauf que le papa, il avait un rendez-vous pour du boulot.
Aïe.
Donc. Et donc, c'était pas possible de déplacer la visite ou de s'organiser différemment. Donc, lui, il est pris dans un tiraillement entre, d'un côté, il a très envie de voir ses enfants, parce qu'il les voit pas beaucoup. Et d'un autre côté, on lui dit, il faut que vous ayez du boulot pour retrouver vos enfants.
Voilà. C'est un arbitrage impossible.
Voilà. Donc, c'est ça l'arbitrage impossible.
Mmh. Alors. Il y a surtout dans la société et dans les institutions des mécanismes de méfiance envers l'extrême pauvreté. Ça transparaît dans tout le rapport. Quand vous êtes très pauvre, les institutions en face de vous sont méfiantes. Elles vous soupçonnent toujours de vouloir en profiter. Comme si, franchement, c'est hallucinant. Et ça transparaît dans tout le rapport.
Oui, c'est ça. Il y a des idées fausses sur les pauvres et sur la pauvreté en général. Voilà, les gens qui sont des feignants, qui veulent pas travailler. Et ça, en fait, c'est démontré très factuellement que c'est faux. En fait, quand on met ces idées fausses face à la réalité, ça ne tient pas deux minutes. En fait, face au récit, au vécu, ça ne tient pas. Donc nous, on s'évertue depuis des années justement à lutter contre ça. Et ça, c'était venu aussi des familles qui disaient, mais en fait,
un discours sur nous qui ne correspond pas à la réalité.
C'est ça. C'est par exemple dans les situations de d'aide sociale à l'enfance et de placement. Il y a souvent l'idée fausse que les parents concernés sont des mauvais parents. En fait, si on part avec cette idée-là, c'est difficile d'avancer, en fait.
Mmh. Et, on démolit la famille.
Voilà. Et donc, alors qu'il faudrait plutôt considérer les choses en se disant que c'est des familles qui ont besoin d'aide et de soutien. Voilà. Et donc, développer
des
choses de l'ordre du soutien à la parentalité. Et il y a plein de solutions qui existent.
Alors, ATD Quart-Monde a publié aux éditions ATD Quart-Monde.
Oui, on a une maison d'édition.
Voilà, un livre, En finir avec les idées fausses sur la pauvreté et la maltraitance institutionnelle, avec des dessins de plein de dessinateurs mainstream. Il coûte 5 euros. Il est passionnant à lire. On va l'avoir à Publico dans pas longtemps. Geoffroy, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu pour inciter les gens à l'acheter et à le lire et à enlever leurs idées fausses l'extrême pauvreté?
Oui, donc en fait, ce livre, c'est aussi un peu une réédition, c'est-à-dire qu'on a on sort un petit livre sur les éditions tous les 3 ans à peu près sur les idées fausses et en fait, on se dit que c'est vraiment utile parce que on se rend compte. On avait fait un sondage, c'était en 2000, euh, je pense que ça doit être 2014, où on avait constaté que 99% des gens ont des préjugés sur les pauvres et la pauvreté. Mmh. Donc ça, on peut se dire, c'est plombant. Mais dans ce même sondage, on démontrait que les gens, s'ils sont exposés à un cours argumentaire, eh ben, ils peuvent un peu évoluer. Mmh. Et la grande majorité des gens, c'était genre 85% des gens, étaient prêts à un peu évoluer avec quelques arguments en main. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un outil justement pour pouvoir mener les petites conversations, amener des arguments dans nos familles, auprès
Noël,
de nos amis.
Voilà, pour voilà. Noël. Ça, c'est à lire et comme ça, on pourra avoir un débat autour de la
c'est
bouche.
C'est ça, c'est à lire, c'est à offrir et en fait, voilà, c'est on se dit qu'il y a besoin de ça, d'être aussi outillé au niveau des arguments pour pouvoir aussi démonter ces idées fausses qui peuvent exister chez nos proches.
Alors, plus globalement, pour lutter contre l'extrême pauvreté, qui est un crime contre l'humanité, il n'y a pas...
On ne le dit pas comme ça, mais...
Moi, je le dis comme ça. Ouais. pour moi, c'est bon. Je suis férocement anticapitaliste, donc ceci explique mon approche. Donc, il y a une liste d'actions qu'AT Descartes Monde met sur le site internet. D'abord, repérer.
C'est ça. Donc, nous, tout ce qu'on fait, ça se base sur une expérience de terrain. Joseph Wrezinski, il disait « tout est né d'une vie partagée ». Donc, ce qu'on cherche, c'est avoir déjà cette vie partagée. Et donc, ça passe par des actions de terrain. Donc, on a des volontaires permanents. Donc, c'est un statut d'engagement. Enfin, c'est un engagement au sein d'un TED Écart Monde où l'idée, c'est de vivre dans les quartiers, de partager la vie quotidienne, de rencontrer les gens, de vivre une vie de quartier. Et voilà, pour essayer de comprendre un petit peu à quoi les gens sont confrontés, c'est quoi leur quotidien. Comment on se lie aussi avec toutes ces personnes et de là émergent des combats collectifs.
Ensuite, on peut témoigner. Une fois qu'on a repéré et qu'on vit avec ces personnes, on peut lire et faire lire le rapport. Il est téléchargeable en ligne. Il y a la version abrégée qui fait 4 pages et la version beaucoup plus longue. Voilà. On peut interpeller les institutions. Ça, c'est très important. Si on a la possibilité d'interpeller son élu, son maire ou son député, on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, agir médiatiquement. Donc, le groupe Louise Michel t'a invité et on te remercie d'avoir pris le temps de venir à Radio Libertaire pour parler d'AT Descartes Monde et de ce rapport. Et surtout, il faut peser politiquement. Et ça, c'est pas gagné.
Donc, ce dernier volet, c'est ce qui est aussi un petit peu compliqué dans la période.
Oui.
Parce que, voilà...
On a un président des ultra-riches. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Monique Pinson-Charlot et son défunt mari.
C'est ça. Donc, nous, on sent qu'il y a besoin de recréer les espaces d'échange, de compréhension, pour vraiment construire... construisent des choses solides et stables. Donc nous, dans ce qu'on a réussi à gagner sur le revenu minimum d'insertion, sur le droit au logement opposable, sur la couverture maladie universelle, sur plus récemment les territoires zéro chômeur de longue durée, c'est des processus longs, mais où on a vraiment mis les gens autour de la table, chacun a posé un peu ses... chacun arrivait aussi avec ses idées fausses. Dans le cadre de territoire zéro chômeur de longue durée, il y avait des appréhensions sur embaucher des gens sans trop savoir ce qu'on va faire, ça va être compliqué. Est-ce que les gens veulent vraiment travailler? Et en fait, voilà, on prend le temps de décortiquer petit à petit les arguments des autres et d'y répondre. Et en tout cas, de trouver un chemin aussi commun. Donc nous, on sent qu'il y a vraiment besoin de recréer ces espaces-là. Et donc, nous, c'est vrai que dans ce qu'on a réussi à gagner, on a réussi à avoir quand même à embarquer assez largement, en fait, politiquement. Et c'est ça qu'on cherche à avoir.
D'accord. En fait, la lutte contre l'extrême pauvreté commence par la lutte contre l'extrême préjugé.
Tout à fait, c'est une très bonne formule et on y souscrit.
Voilà, j'ai froid, je te la donne.
Merci.
Voilà, donc, chers auditeurs, je vous remercie de votre constance pour La Rage Dedans. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je vous demande de faire attention à vous, d'être attentif aux autres. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à Jean-Michel qui a assuré la technique, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Geoffroy, merci.
Merci à vous, merci pour l'invitation et voilà. Merci pour votre travail.
Voilà, et je rappelle le titre du livre, En finir avec les idées fausses sur la pauvreté, la maltraitance institutionnelle, aux éditions ATD Carmonde. 5 euros. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est clair et net, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute les Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, la voix pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maribin, je t'ai blousé, c'est mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage. La rage. La rage.
Negoci am ot veninta del corpo che canto la flor flor de la intervinterni esperan di la cinvenuce mi aura grec aura franca e canto con mi per sa ma voce e diranta del cor esperan.
Esperanto. Ah. Ah. Arbo. Bo. Bo. Boto. Cioccolato. Do. Do. Dento.
Hipopotamo. Ho. Ho. Camaleono. Iglo. Yo. Yes. Yo.
Esperanto en la cadre de Radio Libertaire, de Knavu Kumukvar, Migayer Soy, téléphone numéro de nous, Onu, Kvardek Tris, Sebdekunu, Og de Knavu, Kvardek. Donc Radio Esperanto, dans le cadre de Radio Libertaire, 89,4 MHz. Et notre numéro de téléphone habituel, 01 43 71 89 40. Yen. Saluton al ciui, saluton al ce, al Serge, qui vous facte technicas.
Salut.
Oh là là.
Technicumas.
Faut le m'entendre, ça se moulte la roue.
Hein?
Yes. Yes. C'est aussi ok. Oh là là. Stop.
Problème.
Stop et ber, yes. Né toujours la paratoine. Yes. Et tout est né la microphone. Donc Radio Esperanto, de le cadre de Radio Libertaire, voilà, et bien la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans dieu ni maître ni publicité, avec le siège de la radio, et bien publico au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Donc facté Radio Esperanto en la cadre de Radio Libertaire, Radio Libertaire estas la radio de la anarchista federatio, kai radio facte sen dio, sen mastro, kai sen reclamo, la sidejo de nia radio estas en la librio publico, la loco
sen kvardekvin
strato amlo en la dekunua districto
de Paris.
Yes. Do saluton ankaŭ volito kai
Iber. Saluton à la Goscoltantoy.
Saluton à la Goscoltantoy, comprenez-vous.
Pour le voler.
Kaidan Conal Serge qui vous facte technicum à sa favore Nietzsche, né? Tiens, n'y pas pour la. Quasi ou la Nourafouille, ou Javi Guy qui vous pas esticouni en la salon de la scène, non?
Yes.
Dankal Serge, qui
Dankal
ni Dankas, ni, Dan ni Ege Dankas.
Si, pardon, si, yes. Hubert, qui au caso, c'est un publico.
Un publico de. Voilà, qui m'estas. Sabato, c'est pas, Morgao. Yé, la Dexessaro, la guerre contre les femmes contre la guerre, d'Hélène Néerlandaise, Rinconto de Bato. Temas Priou Libro. Se mi bone compris, estas en tri partoj: historia rememoro.